Bonjour à tous et bienvenue sur Le Grand Changement. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir dans cette belle journée de printemps et j'accueille ce soir Laetitia Jeanne. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir Annelise. Bonsoir. Oui, ça va bien, je te remercie. Je suis ravie d'être ici avec vous ce soir, ravie de faire cette première Vibra-conférence, en tout cas pour moi, avec Le Grand Changement. Donc merci à toi, merci à toutes les équipe, merci au Grand Changement de me permettre d'être là avec vous ce soir.
Eh bien, on t'en prie, on est ravis. On est ravis de t'accueillir. On a déjà Mireille qui te salue, qui te dit bonsoir Annelise et Laetitia et bonsoir à tous.
Bonsoir Mireille.
On a aussi Besseval qui te dit bonsoir tout le monde. En effet, il y a grand intérêt à l'augmenter le taux vibratoire par les temps qui courent si on veut finir l'année en santé.
Bonsoir Besseval.
Ouais, on est dans le bon sujet. Alors, je te propose de te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas et toutes les personnes qui nous regardent. Bah, bienvenue à tous et à toutes. On est ravis d'être avec vous.
Ok, bon, bonsoir à tout le monde. Merci d'être ici ce soir avec nous. Alors, je suis Laetitia Jeanne. Je suis naturopathe iridologue depuis 2013. J'ai commencé ma formation en 2006. J'ai fait cette formation au sein de l'Institut Alain Rousseau à Paris. Et voilà. Et pourquoi me suis-je tournée vers la naturopathie ? C'était pas que une reconversion, c'était aussi un besoin d'aller vers les autres et un besoin de comprendre comment fonctionne notre corps et quoi lui apporter pour qu'il reste en santé, pour qu'il améliore éventuellement sa vitalité, améliore sa santé. Voilà, pour toujours être au mieux possible et en bonne santé. Voilà, j'ai eu cette révélation il y a quand même des années avant, mais je ne savais pas que la naturopathie existait quand j'ai eu mon premier enfant qui est né. Et en fait, quand j'ai eu cet enfant tout pur, tout neuf, tout beau, tout dans les bras, je me suis dit, mais en fait, je peux pas lui donner n'importe quoi à manger, je peux pas lui mettre n'importe quoi sur sa peau, je peux pas le mettre dans un environnement où il y aurait des choses pas très cool. Et du coup, c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé à m'intéresser aux choses naturelles.
Voilà. Magnifique. Alors, voilà. La naturopathie, on connaît bien. Par contre, l'iridologie, un peu moins. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi ce travail que tu fais ?
Oui, alors je vais aborder tout cela. Voilà, bien sûr que oui. L'iridologie, en fait, c'est un des outils que le naturopathe a lors de sa consultation quand on fait un bilan de vitalité, quand on va mettre en place un programme d'hygiène vitale face avec la personne que l'on a face de nous, on a besoin d'avoir certains éléments. Donc, il y a ce temps d'échange avec la personne, ce temps d'anamnèse où on va poser des questions, où la personne va nous dire, voilà, je viens vous voir pour telle raison et puis j'ai besoin d'améliorer telle chose ou je voudrais simplement améliorer mon hygiène de vie. Et du coup, bah, nous, naturopathes, on a cet échange-là, mais on a aussi besoin d'aller chercher des informations que peut-être la personne ne dirait pas ou oublierait de dire ou ne saurait pas. Et donc, pour ça, on a principalement deux outils lors de notre bilan de vitalité, dont l'iridologie. Donc, l'iridologie, c'est l'étude des iris. L'iris, c'est la partie colorée des yeux dans lesquels sont représentés 90 secteurs du corps, évidemment, représentation énergétique, un peu comme ce qu'on retrouve en réflexologie, palmaire, plantaire, etc. Du coup, voilà. À la différence, je vais pas venir appuyer dans les iris ni rien, mais en fait c'est une carte, voilà. En fait, il faut savoir que voilà, l'iris c'est un muscle, c'est le seul muscle qui est visible à l'œil nu. C'est un muscle innervé, et donc nous avec notre iridoscope, c'est-à-dire une loupe qui va venir grossir l'iris, on va pouvoir voir ces différentes représentations qui peuvent être soit de manière sectorisée, soit de manière circulaire. Donc, on va pouvoir avoir des informations sur les forces, les faiblesses d'un organe, d'une fonction, d'une fonctionnalité. Ça peut être au niveau du système digestif, peut-être une information au niveau cardiaque, peut-être au niveau pulmonaire, au niveau de la thyroïde, au niveau de la circulation sanguine, au niveau de la circulation lymphatique, au niveau de la peau, et j'en oublie plein d'autres, bien sûr.
D'accord.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que comme c'est un... Les muscles, en fait, sont constitués de fibres. Les fibres, quand la muscle est en bonne santé, hein, la fibre, elle est resserrée. Et puis, quand le muscle se fatigue, s'abîme, etc., la fibre se distend et, dans un langage simpliste, on va dire, ça forme des trous. Et donc, dans l'iris, okay. on va avoir cette sorte de trou. Et c'est là où on va avoir des informations. Ce trou, dans mon langage technique, ça s'appelle une vacuole. Donc, du coup, je vais voir, je vais me dire, tiens, dans la zone du, je dis n'importe quoi, foie, peut-être qu'en ce moment, il est un peu fragilisé, un peu chargé. Peut-être qu'il y a eu un problème dans le passé. Et peut-être qu'il pourrait y avoir un souci si l'hygiène de vie de la personne n'était pas revisitée. Parce qu'il faut savoir qu'on peut voir des signes du passé, on peut voir des signes du moment et on peut voir, on n'est pas visionnaire du tout, hein, mais disons que ouais. si dans le signe du moment, la personne ne change pas son hygiène de vie, eh bien à ce moment-là, c'est ce qui pourrait arriver. Et ce qui est aussi génial, parce que le corps est juste une machine merveilleuse, c'est que quand j'ai donc ce fameux trou, on va dire, je vais le faire de ce côté-là, en fait, avec les années, le corps peut reconstruire. Ce qui veut dire que je vais voir dans l'iris qu'il y a bien une marque, mais qu'il y a bien de la fibre qui s'est remise derrière. Et c'est là où je vais dire, tiens, peut-être que je vois au niveau respiratoire, est-ce que vous avez fait de l'asthme quand vous étiez enfant? Ou tiens, est-ce qu'il y a eu un souci dans la zone circulatoire ou dans la zone des jambes, enfin, etc. Et donc, on peut voir cette fibre de reconstruction. Donc, c'est vraiment un super outil. Mais cet outil vient aussi en complément de l'étude psychomorphologique, c'est-à-dire l'étude des formes du corps. Voilà. En naturopathie, on va étudier la forme du visage, on va étudier la forme du crâne, on va étudier les mains, on va regarder les ongles. Donc, si jamais vous allez voir un naturopathe, évitez le vernis. Voilà. Ou alors à la rigueur transparent, mais bon. On va regarder aussi la densité des muscles. On va regarder la pilosité, on va regarder vraiment les formes du corps qui vont nous donner des informations globales sur la constitution de l'individu. L'iridologie, ça viendra un peu plus en détail. Et grâce à l'iridologie, c'est là que des fois, on va aller trouver la cause du dysfonctionnement. Parce que c'est ça qui nous intéresse en naturopathie, c'est de comprendre ce qui dysfonctionne. Le symptôme, c'est un signal d'alarme. Il est génial, merci le corps. De nous le donner. On va pouvoir le soulager s'il est vraiment trop fort. Il ne faut pas laisser quelqu'un dans la souffrance. Mais l'idée, c'est de le soulager, mais ce n'est pas de le traiter parce que lui n'est qu'un signal d'alarme et c'est d'aller trouver la cause du dysfonctionnement et de savoir où elle se situe. Et elle peut se situer dans différents corps. C'est-à-dire que si on imagine que là, imaginons que c'est un triangle, d'accord ? Et que ça représente mon corps physique. On imagine que j'ai un autre triangle au-dessus qui est imbriqué dans le précédent. Le deuxième triangle, c'est mon corps vital, qui est lui-même imbriqué dans un troisième triangle, le corps émotionnel et psychologique, lui-même imbriqué dans un dernier triangle, le corps spirituel. Le tout formant la première enveloppe du corps, c'est ce qu'on appelle le côté holistique de la naturopathie. Et donc, du coup, je peux très bien avoir une douleur dans mon corps physique. Et puis, si je m'en soucie pas trop, ça va atteindre ma vitalité. Et si je m'en soucie toujours pas trop, peut-être qu'à un moment donné, ça va avoir une action sur mes émotions, sur mon psychologique. Et puis peut-être que du coup, ça aura une incidence sur ma spiritualité, parce que si je suis tout bloquée dans mon corps, je ne peux pas m'élever.
Bien sûr.
Et donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher la cause du dysfonctionnement. Est-ce que ma cause, elle se situe réellement dans mon corps physique ? Bien sûr que c'est possible. Réellement parce que j'ai une grosse baisse de vitalité et du coup, ça explose de partout. Ou est-ce que c'est un choc émotionnel ou une émotion qui remonte ou quelque chose, ou est-ce que ça se situe, pourquoi pas, au niveau de l'âme? Et du coup, c'est l'idée d'aller trouver où se situe la cause pour pouvoir la traiter et pour pouvoir apaiser si c'est une inflammation, réparer si on peut le faire. Un petit peu tout ça.
Super. Merci beaucoup, Laetitia. C'est passionnant. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on rentre dans cette vibra-conférence, comment augmenter votre taux vibratoire. Que tu nous amènes vraiment à comprendre ça, donc bien sûr par l'alimentation, mais aussi par la naturopathie et par tout ce que tu vas nous apprendre ce soir.
Voilà, merci. Donc, du coup, déjà, pour augmenter son taux vibratoire, il faut bien avoir conscience de ce qu'est la force vitale. Donc, la force vitale, c'est ce qui nous maintient en santé, c'est ce qui nous fait vibrer, et c'est quelque chose que l'on acquiert dès la naissance. Et donc, dès la naissance, on a chacun notre réserve de force vitale qu'on a acquis un peu par l'hérédité. Et puis, en fonction de cette force vitale et de notre constitution, on va la brûler ou pas, plus ou moins vite tout au long de la vie. Et c'est elle qui nous maintient en santé, qui l'améliore quand il y a besoin. Et on imagine bien que quand on est arrivé au bout de sa vie, bien, il n'y a plus de vitalité en nous, il n'y a plus de force vitale. Donc, on la perd évidemment au fur et à mesure de notre avancée dans la vie. Mais ce n'est pas parce que j'ai une grosse réserve que je vais vivre bien longtemps. Et ce n'est pas parce que j'ai une plus petite réserve que je vais vivre mal et peu de temps. Parce qu'il y a comment je vais entretenir cette énergie vitale tout au long de ma vie. Je peux en avoir peu, mais comprendre, être à l'écoute de mon corps et du coup, l'entretenir comme il faut tout au long de ma vie et vivre bien très longtemps. Tout comme je peux en avoir beaucoup et du coup, je vais la brûler, je vais la cramer, comme disent les jeunes. Et du coup, bah, malheureusement, je peux être en arriver à un moment donné où je serai en mauvaise santé et peut-être arriver à pas vivre si longtemps que ça, en tout cas en bonne santé. Donc, c'est vraiment comment cette force vitale, on va pouvoir la conserver. Il faut savoir que c'est cette force vitale-là qui va pouvoir nous permettre de passer en mode d'auto-guérison quand nécessaire et quand on le peut. C'est-à-dire que le corps a cette possibilité, grâce à cette vitalité-là, de passer en mode auto-guérison pour d'une manière générale, quand évidemment on n'est pas dans un stade très avancé d'une maladie. Voilà. Mais il ne pourra y passer que s'il a assez de vitalité. Donc l'idée, c'est toujours de garder en soi cette vitalité, de toujours remplir sa batterie, de toujours s'assurer qu'elle ne soit pas trop vide. Et du coup, forcément, ça joue sur notre taux vibratoire et ça, en permanence, quoi, en fait. Hein, c'est logique. Et cette force vitale, elle va se matérialiser dans notre corps au travers de deux manières, au niveau de notre énergie nerveuse, mais également au niveau de notre énergie glandulaire. Et quand je dis énergie nerveuse, c'est là qu'on va avoir des tempéraments, des physionomies, c'est ça, de personnes qui sont plutôt fines, plutôt allongées. Alors que la personne qui va puiser son énergie vitale dans son système glandulaire va être un petit peu plus ronde, un petit peu plus musclée, un petit peu plus costaud. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Et ce qui est génial, c'est que malgré tout, peu importe sa morphologie, si j'ai épuisé mon énergie nerveuse par exemple, et ben le corps il va l'épuiser dans mon énergie glandulaire parce que lui, il est toujours en permanence à la recherche de l'équilibre intérieur qu'on appelle l'homéostasie. Et donc ça c'est vraiment top. Alors, pour garder cette vitalité en nous, il faut avoir quand même conscience de différentes petites choses dans le fonctionnement de notre organisme. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle les cinq grands principes de la naturopathie. Donc, ça va être dans un premier temps l'humorisme. L'humorisme, c'est pas l'humourisme, hein, c'est l'humorisme. C'est la circulation de nos humeurs, hein, et selon la science d'Hippocrate, les humeurs, ce sont tous les liquides qui sont à l'intérieur de notre corps. Le sang, la lymphe, les liquides intra-extracellulaires. Il faut savoir qu'un corps d'un adulte est composé d'à peu près 70% de liquides, celui d'un enfant de 90%. Et ces liquides, ils sont géniaux parce qu'ils nous amènent, ils amènent aux cellules les nutriments dont elles ont besoin pour bien faire fonctionner l'organisme. Et puis, les cellules, elles utilisent les nutriments et du coup, elles rejettent des toxines. C'est comme nous un peu, quand on mange une banane, on mange toute la banane, mais on met la peau à la poubelle. Ben, les cellules utilisent une partie des nutriments, puis il y a des choses qu'elles mettent à la poubelle. Et bien, les liquides, hop, sur le retour, ils prennent, on va dire, ces toxines pour pouvoir les éliminer auprès de nos émonctoires, que sont la peau, les reins, le foie, les intestins. Du coup, c'est super intéressant que ces liquides soient le plus propres possible, le moins encrassés possible, pour pouvoir faire en sorte que cette circulation se fasse au mieux. Alors, j'aime bien illustrer ça par un petit exemple. On imagine qu'on a deux camions de pompiers qui partent éteindre chacun un incendie différent, mais à la même distance. D'accord ? Le premier camion de pompiers va emprunter une route qui est fluide. Il n'y a personne. Donc, on est d'accord, il va arriver assez vite au niveau du feu et du coup il va pouvoir éteindre très vite l'incendie et ça c'est génial parce que du coup celui-ci n'aura pas eu le temps de se propager et tout aura été, il n'y aura pas eu trop de dégâts. À l'inverse, l'autre camion de pompiers, malheureusement, bah, il y a des déviations, il y a des travaux, c'est très encombré, la circulation est très chargée, donc il va finir par arriver sur son incendie mais beaucoup plus tard, ce qui fait que l'incendie aura le temps de se propager. D'accord. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour dire que plus nos liquides sont fluides, plus nos liquides sont détoxinés, bah mieux se fera la circulation dans un sens pour apporter des nutriments aux cellules, dans l'autre sens pour récupérer des toxines et les éliminer. L'autre principe en naturopathie, c'est vraiment celui d'être à l'écoute, de vivre en harmonie avec les lois de la nature, et puis surtout d'apprendre à se connaître, d'être à l'écoute de son corps. Et j'ai même envie de dire aujourd'hui de se responsabiliser face à sa santé. C'est-à-dire que quand on est à l'écoute de son corps et quand on comprend comment il fonctionne, on va savoir que quand on mange ça, c'est OK. Et quand on mange ça, ça ne l'est pas. Quand on fait telle activité physique, c'est OK. Quand on ne le fait pas, ça ne l'est pas. Quand on dort peu, c'est peut-être OK, c'est peut-être pas OK. Et quand on dort trop, c'est peut-être OK, c'est peut-être pas OK. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Donc, du coup, c'est vraiment important et on fonctionne tous de manière différente parce que nous sommes tous uniques. Et ça voilà, on est tous uniques aussi. Donc, du coup, c'est vraiment de trouver son rythme. Voilà, quelle est la meilleure alimentation pour moi? Quelle est ma quantité de sommeil? Est-ce que je dois me coucher tôt? Est-ce que je dois me coucher tard? Ça, j'y crois pas trop, mais bon, il y a quand même beaucoup de couches tard. Mais voilà, quel serait le meilleur rythme pour moi? Oui, oui, il y en a beaucoup, ouais, ouais. Voilà, est-ce que j'ai fait trop de sport? Parce que ça peut arriver. Du coup, j'ai un peu dépassé la capacité de mon corps. Ou est-ce qu'au contraire, j'en fais pas assez? Voilà, donc tout ça, c'est vraiment important d'être à l'écoute de soi. Pas à l'écoute dans le sens égocentrique, pas du tout, mais juste à l'écoute, dire « Ok, ce que je fais là, c'est juste pour moi. Ok, là, ça ne l'est pas. Tiens, comment je peux rectifier ?» Et tout ça, ça permet qu'on soit bien dans son corps physique, qu'on retrouve de la vitalité, qu'on soit bien dans son corps émotionnel pour être encore mieux dans son corps spirituel et du coup augmenter son taux vibratoire. Okay. Chercher la cause du dysfonctionnement, ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Considérer l'individu dans sa globalité, on l'a déjà vu aussi. Et l'individualisation, c'est-à-dire que la constitution, c'est, voilà, on a ce que je vous disais tout à l'heure, quand nous naissons, nous avons notre batterie de réserve vitale qui fait partie de notre constitution. Et puis, il y a le tempérament que l'on est, comment on va l'utiliser et qu'est-ce qu'on fait de cette hérédité tout au long de notre vie en fonction de notre hygiène de vie. Et c'est là que, on peut la bouler plus ou moins vite. Mais c'est d'où l'importance d'être une fois encore à l'écoute du fonctionnement de son organisme et de son corps. Voilà, voilà déjà pour tout cela. J'espère que c'est clair pour vous.
Merci beaucoup. Super clair.
Je vous ai appris quelque chose. Après, ça me paraît intéressant de voir un petit peu comment la naturopathie et du coup le fonctionnement de notre corps se situe dans la santé d'une manière générale. Parce qu'en naturopathie, vous avez certainement déjà dû entendre parler de ce que nous, on appelle les maladies aiguës, qui sont en fait des crises de nettoyage utiles. C'est-à-dire que quand on a une bonne force vitale en nous, on va faire de la fièvre quand il y a besoin d'aller brûler des bactéries. On va aller faire de la fièvre. Et du coup, cette fièvre, elle va être là pour venir casser ces molécules et faire sortir les toxines. Quand on a de la force vitale, on va faire des crises de foie. Certes, c'est désagréable, mais c'est utile. Quand on va avoir une bonne force vitale, on va peut-être... les enfants vont faire des maladies infantiles, même si malheureusement, ils en font de moins en moins aujourd'hui. Et pourtant, c'est tellement nécessaire à leur développement psychologique. Par exemple, un adulte, au début, il va peut-être faire des crises d'arthrite parce qu'il aura un terrain trop acidifié. Donc, on va pouvoir apporter des corrections pour désacidifier le terrain et faire en sorte que ça ne s'amplifie pas et qu'il retrouve une certaine mobilité au niveau des articulations et apaiser la crise. Quand on a beaucoup de vitalité en nous, on va peut-être que certains organes un peu fatigués vont dire « Attends, je vais sortir tout ce que je peux, par exemple sur la peau ». C'est génial, la peau, elle peut nous faire un super eczéma. Alors certes, c'est douloureux, c'est désagréable, mais merci dans le sens où, grâce à lui, c'est un problème respiratoire en moins, parce que souvent l'eczéma vient après des problèmes d'asthme qui ont peut-être été résolus d'une manière trop médicamenteuse. Peut-être qu'on va avoir plein de boutons, des boutons noirs, des boutons blancs, des boutons d'acné. Certes, c'est désagréable, on est bien d'accord. Cependant, c'est un signe que là, le foie, il est un peu chargé, donc pouf, il trouve sa solution parce qu'il y a la vitalité pour éliminer. D'ailleurs, on voit bien les ados, pour des raisons hormonales ou alimentaires, ont pas mal d'acné. Il y en a généralement moins chez les adultes ensuite. Hein. Ça ne veut pas dire que l'adulte n'a pas non plus de vitalité, mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand même quand on est jeune, quoi.
Alors, Laetitia, pourquoi les maladies infantiles vont aider au développement psychologique?
Parce que c'est comme des passages en fin de compte. L'enfant, il a besoin, parce qu'il a cette force vitale-là, il va pouvoir faire sa maladie infantile. Et en fait, on s'est rendu compte que quand les enfants faisaient ces maladies infantiles-là, en fait, psychologique, ce que je voulais dire, c'est peut-être que c'est comme s'il avait, comme si ça lui faisait passer une étape, comme si ça lui faisait passer un cap, en fait. Ça l'aide au niveau de sa croissance. Souvent, un enfant, quand il a fait sa maladie infantile, après, avec probablement de la fièvre, et que quand il s'est remis, on se rend compte qu'il a grandi. Il a poussé, il s'est passé un truc, il a changé, il a mûri.
D'accord.
En fait, voilà. Je n'ai pas forcément l'explication scientifique, mais c'est un vrai constat que n'importe quel médecin on fait, en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est quand même important, ça les aide à grandir, parce que ça permet d'éliminer des choses et d'évacuer des toxines aussi, quoi.
D'accord, merci.
De rien. D'une manière générale, tout ce qui est douloureux, tout ce qui est chaud et enflé va correspondre à une maladie aiguë. Après, quand la vitalité commence à diminuer parce qu'on avance dans l'âge ou parce qu'on a une petite vitalité qu'on ne fait pas attention ou parce que c'est comme ça, la vitalité va diminuer, on va passer dans les maladies chroniques. Et là, ce qui était douloureux comme l'arthrite, par exemple, au départ, va être peut-être moins douloureux, mais il y a des déformations qui vont apparaître. Et donc, ça signifie, quand je prends cet exemple-là, que l'acidité, en fait, continue son travail. Et du coup, à ce moment-là, si l'énergie diminue vraiment, eh bien, la naturopathie, logiquement, ça serait bien qu'elle laisse la place à des médecines autres médecines naturelles, comme par exemple l'homéopathie. Et puis, un petit peu après, si la vitalité continue encore à diminuer, eh bien, c'est l'allopathie, donc la médecine officielle, qui, en complément, pourquoi pas, de la naturopathie qui travaillera toujours sur l'hygiène de vie, mais du coup, c'est l'allopathie qui va venir prendre toute sa place dans ce qu'on appelle les maladies visionnelles. Donc, ça va être les maladies dites dégénératives, les cancers, les scléroses en plaques, des choses comme ça. Mais dans ces cas-là, la naturopathie peut quand même avoir sa place sur un point de vue hygiène de vie pour accompagner, mais pas pour soigner. De toute façon, ce n'est pas la place de la naturopathie. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions ou...
Alors, il y a des questions, on va les prendre après.
Ouais.
Ok, ça marche. Tout à fait clair, tout à fait.
Continue. D'accord. Donc, pour continuer à augmenter ce taux vibratoire, en naturopathie, on met en place des cures. Et dans ces cures, il y a différentes techniques qui peuvent se mettre en place, dont la principale, l'alimentation. Alors, moi, il y a plusieurs alimentations, il y a plusieurs manières de manger. Et je trouve ça très important d'être une fois encore à l'écoute de son corps et de trouver ce qui correspond à chacun. Il y en a qui vont aller vers le végétarisme, d'autres végétalisme, d'autres qui vont rester avec que de la viande ou que du poisson ou des œufs ou de la viande et du poisson, etc. L'important, c'est de faire ce que l'on ressent, qui est juste pour soi, de ne pas faire comme les autres, ne pas faire parce que c'est à la mode. Il y en a qui vont aller que vers le cru. C'est de vivre ces expériences et de dire ça, c'est top, ça me fait du bien. Ok. Ça, par contre, non. Ok. Mais peut-être que ce qui ne m'a pas fait du bien à l'instant T me fera du bien dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans. Ok. C'est ok. Et c'est ça qui est juste. Donc voilà, pour moi, ça, c'est quand même hyper important comme point. Parce que changer son alimentation, c'est magique et c'est génial. Ça réduit des maux, ça redonne vraiment de la vitalité. Mais parfois, on peut, en tout cas au début, quelle que soit l'alimentation que l'on choisit, se trouver en marge de la société et ça peut être mal vécu. Donc, il faut aussi le prendre en considération. Mais aujourd'hui, c'est un sujet dont on entend parler de plus en plus. Donc, du coup, ça passe de mieux en mieux quand même. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'y aller en douceur et de trouver sa propre alimentation. Il faut toujours être effectivement à l'écoute de son corps physique et de son corps émotionnel. Parce que se dire du jour au lendemain, par exemple, imaginons quelqu'un qui est super gourmand en chocolat, par exemple, dire « demain, j'arrête ». Alors moi, franchement, si la personne arrive, alors elle me donne la méthode parce que franchement, ça m'intéresse. Et du jour au lendemain, c'est le risque de rentrer dans l'illustration et du coup, d'émotionnellement, d'aller dans l'effet inverse. Donc, arrêter, d'accord, ça peut être l'objectif, mais y aller vraiment à son rythme. Et puis, si on mange encore du chocolat, c'est pas grave. Si on mange encore de la viande, c'est pas grave. Si on mange du saucisson, c'est pas grave. Et c'est surtout, c'est de dire, ok, je le mange avec plaisir, surtout je le culpabilise. Et je l'apprécie, je le savoure. Mais du coup, voilà, les aliments qu'on va manger vont peut-être révéler une fragilité émotionnelle. Et donc, ça, c'est important de la prendre en considération. Voilà. Et ne pas avoir peur, par exemple, de jeûner ou de faire des monodiètes. La monodiète, c'est manger un seul et même aliment pendant 1, 2, maximum 3 jours. Un seul aliment. Alors, la végétale, je suis désolée, mais monodiète de chocolat de saucisson, c'est pas possible. Hein. Faut pas abuser non plus. Donc, ça va vraiment être manger, par exemple, que des fruits ou que des légumes. Ils peuvent être crus, ils peuvent être cuits. Ou que du riz ou que des pommes de terre. Mais aucun ajout de gras, aucun ajout de sel, à la rigueur, quelques épices. Mais c'est tout. Et vous en mangez au petit déjeuner, vous en mangez au déjeuner, vous en mangez les quantités que vous voulez pendant le temps que vous souhaitez, 12 heures, 24 heures, etc. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient mettre le système digestif au repos. Et du coup, l'énergie que le corps utilise pour la digestion, eh ben, il va en récupérer, qu'il va pouvoir utiliser pour réparer à droite, à gauche, redonner l'énergie là où il en a. Donc, c'était quand même super important. C'est aussi comme ça qu'on peut monter son taux vibratoire en retrouvant de la vitalité. On peut jeûner aussi. Alors, voilà, on peut jeûner pour commencer maximum une journée. C'est-à-dire qu'on boit de l'eau, des infusions, mais on ne mange rien, rien de solide. Alors, ça peut faire peur au début, c'est compréhensible, mais c'est tout à fait possible. Et du coup, la première fois, on fait ça un jour, on ne travaille pas. Comme ça, on est tranquille. Et puis, si on craque, on craque, c'est pas grave. On fera autrement, on fera mieux, on fera différemment la fois d'après. Et ça, c'est top. Mm-hmm. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il faudrait jeûner au moins 3 semaines. Je ne vous dis pas de le faire, mais il faudrait jeûner au moins 3 semaines pour avoir l'appel de faim des cellules. Ça veut dire que chaque jour, on se dit oh, « j'ai faim, il faut que je mange ». Mais est-ce que c'est la vraie faim? Ben, moi, je vous réponds non. Et pourquoi? Parce que la logique voudrait que si vous avez assez de vitalité, si vous avez une bonne alimentation, par rapport à vous, j'entends, hein, et ça voudrait dire que vous allez faire autant de sel que de repas. Je fais un repas, je fais sel, je fais deux repas, je fais deux sels, je fais trois repas, je fais trois sels. Et bien, souvent, si on fait une selle par jour, on est content. Moi, je rencontre beaucoup de gens dans mon cabinet qui me disent « Oulala, si j'en fais une tous les 2 jours, c'est génial. » Voilà. Donc, du coup, je ne sais plus pourquoi je racontais ça, pardon. J'ai perdu mon idée. Voilà. Et donc, du coup, voilà, souvent, on se dit « Tiens, j'ai faim. » Et en fait, ce n'est pas nécessairement la faim. C'est une sensation de faim. Et en fait, c'est le péristaltisme. C'est-à-dire, c'est le muscle, c'est la digestion qui reprend, qui a été stoppée pour une raison ou pour une autre et qui se remet en place et qui peut donner cette sensation de faim qui fait qu'on va manger. Mais si on veut faire un test, on prend un verre d'eau, on prend une infusion, on patiente et on se rend compte que peut-être on n'avait pas si faim que ça et qu'on peut peut-être attendre l'heure du déjeuner pour vraiment manger quelque chose. Et ça évite un petit grignotage. C'est sympa.
D'accord.
Alors, en termes d'aliments, on va avoir les aliments de santé. Évidemment, en naturopathie, on va privilégier à 100% tous les légumes, tous les fruits. Et on va amener vers une alimentation à 80% de protéines végétales, 20% de protéines animales. Après, une fois encore, hein, c'est vraiment au rythme de chacun. On va limiter les aliments poisons, donc les laitages principalement de vache, les produits raffinés, les produits sucrés, et les produits blancs. Il faut savoir que dans toutes vos farines blanches, dans votre sucre blanc, dans votre pain blanc, il y a zéro nutriment. Il y a zéro calorie, il y a zéro nutriment. Donc, en fait, vous mangez, mais ça ne porte rien. Alors que quand on est sur demi-complet, voire sur du complet, on a la céréale et son enveloppe. Et là, oui, on a du nutriment. Donc, ça, c'est quand même plus intéressant. Je ne vous dis pas de passer du blanc au complet du jour au lendemain parce que vos intestins ne vont pas aimer du tout. Il faut vraiment, une fois encore, faire les choses de manière adaptée et progressive. Douce, ouais, tout à fait. On va, par exemple, proposer de limiter tout ce qui va être charcuterie, tout ce qui va être viande rouge parce que c'est des produits très acidifiants. On va proposer de limiter la viande, en tout cas le soir. Et puis, on va aussi aller plutôt sur des produits locaux, le plus de préférence des produits bio, éviter tout ce qui est élevage intensif, par exemple. Voilà. Après, si on ne peut pas acheter des légumes bio, parce qu'on peut comprendre, ce n'est pas non plus toujours évident, dans ces cas-là, on achète ces légumes et puis on les fait tremper toute une nuit dans de l'eau, qui va récupérer un maximum de toxines. Et puis, quand on les utilise le lendemain, surtout, on les épluche bien. La différence d'un produit, c'est qu'on va pouvoir le frotter, le brosser avec une brosse alimentaire et garder la peau parce que c'est dans la peau qu'on trouve un maximum de nutriments, donc un maximum de vitalité. Et en termes de vitalité aussi, c'est que tout ce que vous allez manger de cru et de végétal, bien d'accord, de cru et de vivant. Je fais la remarque, quand on me parle, je dis ça, on me dit « Ouais, mais mon carpaccio de viande, il est cru. » Certes, oui. Mais la viande, elle est morte. Voilà. Donc, elle n'apportera pas la vitalité. Alors que si je prends une pomme, si je prends un poireau, si je prends un fruit ou un légume cru et que je croque dedans ou que je le bois parce que j'en ai fait un jus, là, j'ai l'intérêt nutritionnel de l'aliment et également, je fais le plein de vitalité. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir tous vos repas par des crudités ou par des jus de légumes crus que vous pouvez faire vous-même avec un extracteur, voire une centrifugeuse, ou que vous pouvez aussi acheter dans les boutiques bio en bouteille. Mais vraiment, voilà, une chose à retenir, c'est que vraiment, voilà, pour avoir de la vitalité, augmenter son énergie vitale et donc son vibratoire, eh bien, c'est intéressant de manger quand même des aliments crus végétaux à tous les repas. Et une chose aussi importante, c'est que les fruits, c'est intéressant, c'est même important de les sortir des repas. Le fruit cru. Parce que quand je vais manger une pomme, enfin un fruit cru, n'importe lequel, il va être digéré, assimilé en une demi-heure. J'aurai l'intérêt nutritionnel et j'aurai l'intérêt de la vitalité. Si je mange cette même pomme à la fin d'un repas, ma pomme va être digérée après tout le reste du repas. Et donc, du coup, elle va être mélangée à tout son repas qui va prendre des heures à être digérée. Et du coup, je vais perdre l'intérêt, la vitalité du fruit, je vais perdre son intérêt nutritionnel. Donc, manger toujours des fruits seuls, en dehors des repas, vers 10h, vers 16h, 17h, pour garder la vitalité, l'énergie de ces fruits. Ça peut être des fruits frais, des fruits secs, comme les raisins secs, les figues, les abricots, ou des oléagineux comme les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil, etc. etc.
Mmh. Ok, j'aurais une question. Parce que j'ai eu des intervenants qui m'ont parlé beaucoup de médecine chinoise et qui expliquaient que faire cuire les légumes et tout ça, et les aliments, ça fatiguait moins la rate et le foie, et qu'en fait, le cru fatiguait énormément le corps. Qu'en penses-tu ?
Alors oui, effectivement, il y a plein de choses à ce niveau-là. Si on a une bonne vitalité, le cru ne peut que redonner de la vitalité, ne va pas fatiguer. Et si on a un doute, on peut effectivement ouvrir son repas par le cru qui va quand même apporter de l'énergie vitale. On peut manger du chaud derrière. Après, ça va dépendre des saisons. Et encore, ça va dépendre de chacun. Il y a des personnes qui vont être capables de faire que du cru pendant une journée, deux journées, 1 an, 3 ans ou toute leur vie. Et puis, il y en a qui vont le faire par période. Et puis, il y en a qui vont avoir besoin de dire « Non, là, en fait, le cru, je ne peux pas. Je mange ma soupe chaude, je mange mon légume. » Donc, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps. Parce que c'est pareil, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps et d'expérimenter. En fait, c'est ça, expérimenter. Faites-vous confiance et reprenez les rênes de votre santé. La médecine chinoise, elle dit ça. L'ayurvédique, elle dit ça. La naturo, elle dit ça. En fin de compte, on dit la même chose. On a les mêmes bases. Nos médecines sont toutes aussi ancestrales les unes que les autres. La différence, c'est peut-être qu'il y en a une qui s'est développée sur un continent asiatique, un continent indien et un continent européen. Et c'est normal, on n'a pas les mêmes climats, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes constitutions. Donc, ça peut expliquer différents changements. Mais une fois encore, l'important, c'est de trouver ce qui nous convient et donc d'expérimenter.
Génial, merci. Alors, peut-être que tu peux nous commencer à nous parler des ateliers, parce que les ateliers, ça va être passionnant. Et j'ai envie de mettre le lien pour les personnes, pour que vous puissiez vous procurer les 3 ateliers de Laetitia Jeanne. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des ateliers. Déjà, l'atelier 1. Augmenter votre énergie, manger ce qui vous convient. Qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier ? Alors, je précise c'est que tous les ateliers vont être… excuse-moi Laetitia, je précise juste que tous les ateliers sont disponibles à vie. Vous pouvez vous les procurer à tout moment. Voilà.
Ok. Eh bien, dans cet atelier, l'idée, ça va être de comprendre le fonctionnement de son corps, de comprendre une fois encore ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il a besoin qu'on lui apporte en termes d'alimentation, pour avoir les idées claires, pour garder son, son augmentation du taux vibratoire. Et donc, du coup, là, je vais vraiment m'intéresser aussi à son fonctionnement, savoir comment il fonctionne. Je vous ai parlé un petit peu brièvement tout à l'heure des émonctoires. Là, je développerai un petit peu plus ces portes de sortie qui nous permettent d'éliminer nos toxines. Et puis, vraiment, on approfondira aussi la partie alimentation, donc les différents types d'alimentation.
D'accord. Alors, dans l'atelier 2, extracteur de jus.
Dans l'atelier 2, voilà, on va essayer d'aller tirer le meilleur des légumes et des fruits. Donc, du coup, c'est l'idée de parler de l'intérêt des jus de légumes crus, pourquoi pas des jus de fruits aussi. Donc, voir comment les faire, quelles sont les associations que l'on peut faire et puis quel est l'intérêt de ces jus de légumes crus, comment les consommer, voilà.
Ok, donc tu vas nous donner des recettes peut-être ?
Voilà, il y aura des petites recettes. Et je expliquerai aussi comment les faire. Enfin, comment les faire, maintenant vous allez me dire c'est super simple. Mais on parlera un petit peu aussi de l'intérêt vraiment de faire ces jus de légumes crus. Et puis oui, il y aura des recettes. Un jus pour limiter les migraines, un jus pour la vitalité, le petit jus du matin. Voilà, des petites choses comme ça. Le jus pour les enfants, tout ça.
Ok, donc tu nous diras quand les boire, comment, est-ce que ça peut remplacer un repas, des choses comme ça.
Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Passionnant, génial. Et donc, dans l'atelier 3, alimentation vivante et spiritualité.
Voilà, alimentation vivante pour mieux vous connecter à votre spiritualité. Donc là, ça sera vraiment l'idée de vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas la cuisine. La cuisine, c'est en fait vraiment manger du végétal, vivant, cru. Donc, en parler, expliquer pourquoi, comment, quel est son intérêt. Et puis, proposer des recettes. Et puis, voilà, j'espère même avoir préparé des petites choses et pouvoir vous les montrer à travers l'écran en espérant que ça vous donne envie. En tout cas, moi, quand j'ai suivi des ateliers de cuisine, voilà, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller dans ma cuisine pour pouvoir goûter ce que j'avais vu en vidéo. Et du coup, essayer de comprendre l'intérêt de cette alimentation-là, qui est vraiment passionnante, qui est vraiment intéressante et qui vous conviendra ou ne vous conviendra pas ou vous conviendra plus tard, ça, c'est l'histoire de chacun. Ça, c'est vraiment l'histoire de chacun et c'est très bien comme ça, quoi. C'est vraiment faire ce qui est juste pour ça. Mais c'est vraiment l'idée de plus on va vers une alimentation végétale, plus on va vers une alimentation vivante, plus en fait on s'éclaircit les idées, plus on enlève les idées noires et plus on va vers le bon sens, comme dirait René, pour ne citer qu'elle.
Tout à fait.
Et du coup, plus on s'élève et c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment passionnant.
Wow. Tout à fait. Enfin, ça, on a justement Irène Grosjean, on a Thierry Casasnovas qui nous présente beaucoup l'alimentation vivante, le crudivorisme, et qui font beaucoup de vidéos pour expliquer tout ça, parce qu'il y a besoin de comprendre aussi, pour comprendre pourquoi.
Bien sûr.
C'est vrai qu'on descend du singe, alors on serait plus adapté à manger cette alimentation, et en même temps, on chauffe les aliments depuis tellement longtemps que ça nous questionne. Tu vas aussi nous parler un peu de ça, de pourquoi cette alimentation pour l'humain.
Ouais, tout à fait. Oui, voilà, c'est l'idée de vraiment d'expliquer pourquoi la cuisine, pourquoi, de raconter un petit peu son histoire et ce qu'elle apporte. Oui, c'est vraiment aussi parler de tout ça, pas juste montrer, c'est pas juste donner une recette et montrer un produit qui a été fait. Non, c'est vraiment raconter l'histoire de la cuisine et ce qu'elle apporte. Tout à fait.
Ok, donc c'est super pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer mais qui ont peur, qui se disent ah c'est dur et tout ça, et en fait là vous allez pouvoir vous lancer grâce à Laetitia Jeanne, vous lancer dans des ateliers où vous allez être accompagnée, parce que ce sont donc des ateliers vidéo où vous pouvez les revoir à tout moment. C'est ça qui est vraiment super.
Ça c'est cool.
Ouais. Alors, on va bientôt prendre des questions. Je sais que tu n'avais pas encore fini de nous raconter tout ce que tu voulais nous dire. Donc, je te laisse poursuivre encore la vibraconférence.
D'accord. Ok, d'accord. Donc, je vous disais qu'on avait trois techniques phares en naturopathie pour pouvoir faire augmenter notre taux vibratoire et surtout notre vitalité et rester en bonne santé. Donc, l'alimentation. Mais on a aussi l'activité physique qui a un double objectif. Soit elle permet de mettre en circulation les liquides et ainsi permettre cette fluidité d'échange entre toxines et nutriments, soit elle permet de mettre le repos, le mental au repos, c'est mieux dans le bon sens. Et donc, du coup, ça va être une fois encore de trouver ce dont on a besoin en fonction de la cure que l'on va la choisir et de trouver le sport adapté à soi. Et quand je dis sport, je mets des guillemets parce que je parle vraiment d'activité physique. Il y en a qui vont aller courir, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont faire de la natation, il y en a qui vont faire du vélo, il y en a qui vont juste aller au bout de la rue, qui vont revenir, et c'est très bien. C'est l'important, une fois encore, de trouver ce qui nous correspond à nous. Évidemment, l'idéal, c'est de faire un minimum d'une demi-heure par jour avec de la transpiration, mais on ne peut pas tous le faire pour différentes raisons, et ce n'est pas grave. Mais l'important, c'est de bouger quand même, parce que le mouvement, c'est la vie, c'est le mouvement. Si on ne bouge pas, ouais, on se sclérose, on se fige, et ça, c'est dommage. Donc, bouger, ça peut être simplement marcher. Et si on ne peut pas faire des marches longues pour différentes raisons, ça peut être juste aller au bout de la rue et revenir. Voilà, l'important, c'est vraiment de se mettre en mouvement. D'accord. Après, en naturopathie, on va aussi beaucoup s'intéresser à la gestion des émotions. Ça passe évidemment par la qualité et la quantité du sommeil. Et du coup, dans la gestion des émotions, on va aller comprendre ce qui ne n'irait pas. Pourquoi toujours ce chocolat, pourquoi je pleure tous les 4 matins, pourquoi je me culpabilise, etc., etc. Donc, en tout cas, moi, j'aime bien aller titiller quand je sens que c'est possible au niveau des émotions. Et après, personnellement, je vais travailler beaucoup avec les élixirs floraux, après avec d'autres ouais, exercices également. Mais il faut savoir aussi que le sommeil est super important. Il faut savoir se reposer, il faut savoir se poser, il faut savoir dormir, voilà. Dans une nuit de sommeil, le corps, pendant le sommeil, va récupérer beaucoup de vitalité quand on lui en donne les moyens. C'est-à-dire qu'il va y avoir une phase de digestion, d'assimilation, de récupération, d'harmonisation, de réparation et d'harmonisation, pardon. Donc, si j'ai un sommeil de qualité et de quantité, mon corps va faire tout ça. Ce qui fait que logiquement, je me réveille le lendemain matin, je suis en forme et j'ai faim. Si par contre, j'ai un sommeil qui est court, eh bien, mon corps aura peut-être terminé de digérer, mais il n'aura pas assimilé. Et parfois même, il n'aura même pas terminé sa digestion. Et oui, si j'ai un sommeil si j'ai un sommeil plein d'insomnie, eh bien, je vais me réveiller fatiguée et je vais avoir besoin d'aller manger, non pas pour me nourrir, mais en fait pour me donner une béquille pour pouvoir commencer ma journée. Ça va être le café du matin, ça va être la barre de chocolat peut-être, ou le sucre, si ce n'est pas du chocolat, pour pouvoir me donner de l'énergie. Voilà. Alors que, voilà. Mais si je revisite mon énergie, mon alimentation, et que je revisite mon hygiène vitale, c'est ça mon hygiène de vie, je vais pouvoir améliorer cela. Après, en naturopathie, on va aussi utiliser l'eau. L'eau sous toutes ses formes. Donc déjà, je vais boire, pardon.
Allez, santé.
Voilà, parce que vous avez bien compris, le corps est constitué de 70% de liquide, d'accord ? Donc, l'eau est vraiment importante pour mettre ces liquides en circulation et pour mettre l'énergie aussi en circulation. Et cette eau, je peux l'utiliser en forme de bain chaud, sous forme de douche écossaise, c'est-à-dire que je mets du chaud, puis je mets du froid, je remets du chaud, je remets du froid. Et ça, c'est génial parce que ça permet de faire circuler 1,5 litre de sang dans le corps. Parce que, pardon, le froid va chasser le sang vers les extrémités, puisque du coup, le froid va chasser le sang vers l'intérieur du corps, puisque quand j'ai froid, le sang va se concentrer au niveau des organes vitaux. Et puis le chaud, lui, au contraire, va repousser le sang vers la périphérie. Donc si je fais du froid, douche froide, douche chaud, douche froide, douche chaud, et je mets comme ça en circulation 1,5 litre de sang, c'est quand même super intéressant quand j'ai des problèmes circulatoires. Alors le froid qui est froid pour moi, n'est pas le même froid que pour toi, Annelise, bien sûr. Et le chaud qui est chaud pour moi n'est pas le même. Une fois encore, on fait son expérience, fait ce qui est juste pour ça.
Si, par exemple, on aime bien faire des douches très chaudes et on n'aime pas mettre du froid, mais qu'on peut rentrer dans des eaux froides, par exemple dans la mer, dans des lacs et tout, on peut rentrer et faire des bains froids. Il n'y a pas de souci, peut faire des douches très chaudes et après...
Alors oui, mais ton bain dans la mer, tu ne vas peut-être pas le faire tous les jours.
Ah bah ça dépend, ça peut m'arriver.
Si tu le fais tous les jours, c'est top. Tu n'as pas besoin de faire une douche froide, une douche chaude. Mais si tu n'habites pas à côté de la mer, du coup, tu vas peut-être faire plus facilement une douche froide, une douche chaude. Mais oui, bien sûr, les bains de mer, en plus la mer, tu es dans un élément naturel, un élément vivant, un élément, waouh, alors là, c'est le plein d'énergie vitale, même si tu mets juste les pieds, c'est top. C'est top. Donc, on va aller récupérer de l'énergie vitale, même si j'en parle après, c'est pas grave, j'en parle maintenant. On va aller récupérer de l'énergie vitale au contact de la nature. On va faire des câlins aux arbres, on va marcher dans l'eau, que ce soit les rivières, que ce soit l'océan, que ce soit la mer. Mais oui, mais allez-y. Allez-y, c'est merveilleux. Prenez un bain de soleil, alors pas en plein cagnard, sans protection solaire, etc. Mais voilà, marchez pieds nus dans la rosée du matin, si vous pouvez. Et là, waouh, vous allez voir. Mais vraiment, vous allez voir la fraîcheur qui va monter en vous, mais aussi l'énergie qui va monter en vous. C'est vraiment, voilà, admirer la pleine lune et profiter de ses rayons. Tout ça, c'est de l'énergie vitale, de la vitalité qui va nous rebooster notre énergie, notre corps, nos vibrations. Donc ça, ouais, il faut y aller un maximum. Voilà. Après, il y a aussi toutes les techniques manuelles qui vont permettre de, encore une fois, pouvoir créer ces déplacements liquidiens. Alors, soit avec un massage en profondeur, soit un massage en douceur, selon nos besoins, selon ce dont on a besoin. Voilà. Il y a aussi beaucoup de massages en réflexologie. Donc là, on va venir appuyer sur des points particuliers pour pouvoir remettre l'énergie en circulation. Évidemment, toutes les techniques respiratoires, avec les arts martiaux, le yoga, la méditation, la respiration qui est super importante, parce que la respiration, respirer, c'est notre premier aliment et c'est le seul aliment dont on ne peut pas se passer. Et pourtant, on est peu nombreux à réussir à respirer vraiment, enfin on respire tous, je veux dire, mais à utiliser la vraie respiration, on respire par réflexe, mais est-ce qu'on respire vraiment en se tenant bien droit, en étant vraiment super aligné, en inspirant, en soufflant bien, etc., tous les jours? Nombreux sont à le faire, mais je pense sur la planète, on est encore c'est insuffisant, on va dire. Voilà, mais c'est pour vous dire que voilà, la respiration, c'est quand même super, super important. Après, bien sûr, en naturopathie, on va utiliser les plantes sous toutes leurs formes, que ce soit les élixirs floraux, les huiles essentielles, les gélules, les poudres, les teintures mères, voilà, les plantes qui font partie de ce qu'on appelle les compléments alimentaires, qui sont très importantes pour venir soutenir un organe, une fonction. Mais on peut aussi les utiliser sous forme d'infusion, on peut aussi les utiliser dans notre assiette, hein, l'artichaut pour le foie, le thym pour les fonctions respiratoires, la gentiane pour apaiser le système nerveux. Enfin voilà, on peut vraiment travailler comme ça. Alors là-dessus, je voudrais juste attirer l'attention parce que j'ai souvent des personnes qui me parlent qui prennent des compléments, des produits de santé naturelle, etc. Ça fonctionne pas, etc. Il faut savoir que dans le principe actif d'une plante, c'est en fait une molécule toxique. Si j'ai assez de vitalité et qu'elle est bien ciblée, elle va venir travailler, permettre à l'organe cible de faire son travail, de le renforcer, de l'aider. Ok. Mais si par contre, je n'ai pas assez d'énergie vitale, ce principe actif qui est une molécule toxique va être une toxine de plus que mon corps va devoir traiter. Et du coup, si je n'ai pas la vitalité nécessaire, eh ben, ça va en fin de compte me fatiguer. Donc, c'est pour ça que c'est super important de savoir ce que l'on prend, pourquoi, à quel moment et comment. Et ne pas faire, tiens, hop, printemps, je détoxe. Non, je détoxe, par exemple, si j'ai besoin, mais je détoxe si j'ai assez d'énergie vitale. Si j'en ai pas, je ne fais pas. Je me revitalise et je détoxe après.
D'accord.
Évidemment, il y a toutes les techniques énergétiques, toutes les techniques vibratoires pour faire monter son taux vibratoire. Donc, les techniques vibratoires s'appellent les élixirs floraux, mais c'est voilà, tous les contacts avec la nature. Et les techniques énergétiques, voilà, c'est le magnétisme, ce sont les aimants, c'est la géobiologie, c'est le feng shui, voilà, c'est vraiment tout ça qui peuvent aussi nous aider à remonter notre taux vibratoire. Que vous dire de plus? Voilà, je peux vous parler des cures. En fin de compte, voilà, il y a 4 cures en naturopathie. Il y a la cure de détoxination ou détoxication, de revitalisation, de stabilisation et de régénération. Dans la cure de détoxination, on va venir assécher les sources de surcharge par un temps diététique fort. C'est-à-dire qu'en gros, on va fermer le robinet, on va donner au corps ce dont il a besoin, mais pas plus, pour qu'il aille chercher le reste dans ses propres réserves. On va stimuler les émonctoires, donc les portes de sortie des toxines. Voilà, on va faire en sorte que tous les déchets soient vraiment éliminés par ces émonctoires. Donc, on va peut-être apporter des plantes qui seront utiles à ce moment-là pour cela. Au niveau de l'activité physique, on va trouver plutôt une activité physique qui stimule les émonctoires, qui améliore l'élimination des toxines. Peut-être une marche, mais très rapide, suroxygénée, de la natation parce que ça permet d'éliminer certaines acidités, etc. Et puis, on va évidemment voir comment on va pouvoir gérer le stress pour s'éloigner peut-être des tentations émotionnelles d'aller vers du sucré ou vers du salé en termes d'alimentation. Dans la cure de revitalisation, on va au contraire avoir un régime hypotoxique, c'est-à-dire qu'on va limiter les carences de l'individu. Donc, on va faire plus attention aux associations alimentaires pour lui redonner de la vitalité, mais qu'il ait quand même une alimentation complète. On va évidemment aller chercher vraiment des produits de santé, peut-être naturels, bien sûr, peut-être s'il y a de grandes carences, donc ça peut être du pollen, ça peut être des algues, ça peut être vraiment plein de choses. On va éliminer dans la mesure du possible tout ce qui est dévitalisant, donc trop d'écran. On voit comment on peut faire avec le tabac, on voit comment on peut faire avec les aliments poisons, par exemple diminuer le café, diminuer le chocolat, les viandes, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, on va intégrer des éléments revitalisants comme le câlin avec les arbres, le contact avec la nature, comme la gymnastique douce, les animaux à sang chaud, le yoga, la danse, le rire, et comme je disais tout à l'heure, voilà, marcher pieds nus dans la rosée du matin, par exemple. La cure de stabilisation, bah, c'est quand on est OK, un coup on détoxe, un coup on revitalise. Et puis la cure de régénération, c'est vraiment quand, je pense, on a fait un énorme chemin, qu'on est allé très très loin et qu'on a avancé, je pense, sur ses vibrations et sur sa spiritualité. Et là, généralement, on se nourrit quasiment exclusivement de fruits, de légumes. On gère très bien son stress et on profite à fond du soleil. D'accord. Donc, voilà un petit peu pour les cures. Voilà. Maintenant, si j'avais juste 5 petites astuces à donner pour permettre à chacun de rester en bonne santé. Bah, la première, c'est vraiment de penser à bien respirer parce que l'air, c'est vraiment notre premier aliment. Sans lui, on ne vit pas. Peut-être quelques secondes, quelques minutes pour certains, mais pas plus. Donc, c'est vraiment, quand j'ai un stress, la première chose à faire, plutôt que d'être comme ça, c'est de me dire, je me détends. Et je me détends par un... Et après, j'inspire quelque chose d'énorme et je respire, j'expire, pardon. Vraiment, ça apporte du calme, ça apporte de la détente, ça amène de la clarté aussi au niveau du mental. Ça permet de lâcher prise au niveau du mental aussi. Et puis, il y a plein d'applications aujourd'hui qui peuvent nous aider, merci la technologie, hein. Des applications pour nous aider à respirer, à méditer, qui travaillent sur la cohérence cardiaque. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à trouver encore une fois son outil qui nous va bien. La deuxième astuce, c'est vraiment de bien s'alimenter. Donc, bien trouver son alimentation, celle qui nous correspond. C'est de manger à sa faim, manger quand on a faim. Et une fois encore, faire vraiment ce qui est juste pour soi. Bien dormir, bien se reposer, bien se détendre en quantité, mais aussi en qualité. Bien éliminer, ouvrir ses émonctoires, bien éliminer ses toxines. Donc ça veut dire aller à la selle autant que de repas, ça veut dire uriner, voilà, ça veut dire pouvoir transpirer, et puis ça, voilà, et tout ça c'est vraiment dans l'idée d'augmenter le taux vibratoire et d'amener des idées le plus positives et optimistes possible. Et puis notez qu'effectivement, en règle générale, 80 à 90% des pathologies sont dues à un mauvais fonctionnement du système digestif, hein, qui est donc lié à notre hygiène de vie. Et c'est pour ça qu'en naturopathie, on s'intéresse énormément au système digestif et qu'on ramène beaucoup de choses à lui. Il faut savoir qu'il y a plus d'informations qui partent du système digestif qui vont au cerveau que d'informations qui partent du cerveau et qui vont au système digestif. Donc, si j'ai un bon système digestif, si j'ai une muqueuse intestinale qui est saine, logiquement, je vais bien à la selle, j'ai une bonne digestion, ça veut dire que mon corps utilisera moins d'énergie pour la digestion. Donc, c'est autant d'énergie récupérée ailleurs pour aller encore mieux. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que c'est clair pour tout le monde.
Ah ouais, c'est vraiment super. Je te remercie beaucoup, Laetitia.
Avec plaisir.
Alors, on va prendre des questions parce qu'il y en a pas mal. Alors, Donc, il y a Namasté qui te demande « Bonsoir les amis, pourriez-vous aborder les régimes végétaliens crudivores et les problèmes qui pourraient survenir, carences par exemple et autres que j'ignore ? Merci. »
Alors, oui, donc tout ça, je l'aborderai beaucoup dans les ateliers, notamment un petit peu dans tous. Mais, alors, je pense que déjà, en fait, ouais, et je pense qu'une fois encore, il faut vraiment faire son expérience et puis il ne faut pas avoir peur parce que c'est la peur qui nous met des barrières, qui nous met des freins. Et je ne vais pas dire que c'est la peur qui crée les carences, hein, mais... peut-être que le régime végétalien ou crudivore va correspondre à une personne, mais pas à une autre. Et donc, c'est vraiment à chacun d'expérimenter et de voir comment il se sent. Voilà. Moi, j'ai des personnes autour de moi, et même au sein de ma propre famille, qui ne pourront pas se passer d'une alimentation encore carnivore. Ben, ce n'est pas grave. L'important, c'est que ça leur convienne. Quand on écoute Irène Grosjean, Nelly Grosjean, Astrid, etc., qui ne mangent que du cru, elles expliquent bien qu'en fin de compte, pour elles, en tout cas à leur niveau, il y a zéro carence. Il n'y a vraiment rien, il y a vraiment se faire confiance. Et que, en fait, dans la nature, à la base, on a tout ce qui est utile à notre corps pour bien fonctionner. Donc, c'est vraiment y croire, se faire confiance, y faire confiance. Et voilà. Et si on a un doute, eh ben, on n'y va pas, on expérimente autre chose et puis on y va après ou on n'y va jamais, c'est pas grave non plus. C'est vrai qu'on parle beaucoup de carences, notamment en vitamine B12 quand on est végétalien. Alors aujourd'hui, il y a des super vitamines B12 par des laboratoires, hein, qui peuvent venir compléter. Et dans ces cas-là, bah, on complète et ça rassure et puis ça va bien. Voilà. Mais bon, c'est pas... Voilà.
Ok, merci beaucoup. Alors, il y a Carole qui te demande, le jeûne aide pour avoir les liquides fluides. Est-ce que c'est ça ? Elle te demande si... Ça aide.
Alors, le jeûne va permettre, alors un jeûne régulier de quelques heures, le jeûne intermittent ou le jeûne d'une journée par semaine ou le jeûne sur une semaine, va aider à nettoyer le corps. Ça va aider à nettoyer le corps parce que du coup, quand on jeûne, on fait quand même des purges, c'est-à-dire qu'on vide vraiment les intestins. On a plus rien dans l'organisme pendant un jour par exemple, donc du coup on met le système digestif au repos. En mettant le système digestif au repos, on va retrouver de l'énergie vitale. Du coup, oui, ça va permettre au liquide de se nettoyer, mais ce qui va vraiment permettre au liquide d'être plus fluide et d'être plus propre, si je puis dire, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc ça passe par l'alimentation, mais par l'activité physique, par la gestion des émotions, par le sommeil. Voilà, voilà, c'est vraiment une globalité. Et c'est tout ça qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir rendre ces liquides effectivement fluides. Donc, le jeûne va aider, va contribuer, mais pas que. C'est pas parce que je vais jeûner tout le temps que... Non, parce que si, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je sais pas si c'est votre question, Carole, ou pas, ou votre cas. Hein, mais si je jeûne tous les lundis, par exemple, mais qu'à partir du mardi, je mange un peu n'importe quoi, je fais pas de sport, et je me couche super tard, mais les liquides seront pas fluides. Donc, c'est vraiment, j'intègre le jeûne dans mon hygiène de vie et c'est un tout qui va me permettre d'avoir cette fluidité au niveau de mes liquides. C'est vraiment mon hygiène de vie qui va fluidifier tout ça, en fait.
Merci. Il y a Ayam qui te demande, est-ce que ce qu'on mange est inscrit dans nos gènes et ainsi chacun devrait se nourrir comme ce que mangeaient ses ancêtres ?
Alors, les ancêtres, c'est-à-dire si je suis issue d'une famille royale ou si je suis issue d'une famille plutôt de paysans, est-ce que ça serait ça? Ou ancêtres préhistoriques, valables pour tout le monde. J'ai pas vraiment de réponse par rapport à savoir si c'est inscrit ou pas dans nos gènes. Maintenant, si on regarde nos ancêtres, effectivement, préhistoriques, qui dans un premier temps étaient plutôt crudivores et qui mangeaient que des fruits et des légumes. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, et si on descend vraiment des grands singes, effectivement, on pourrait aller vers cette alimentation-là. D'accord. Mais c'est vrai aussi qu'à un moment donné, l'homme a découvert qu'il pouvait manger de la viande crue. Puis bon, il a découvert, j'ai envie de dire malheureusement, qu'il pouvait la faire cuire. Et du coup, c'est, voilà, c'est un petit peu dommage peut-être, parce que du coup, c'est, je pense, à ce moment-là qu'il a commencé à s'encrasser. si je suis les idées d'Irène Grosjean, effectivement, les rois mangeaient en abondance beaucoup d'alimentation cuite. C'est eux qui avaient le pouvoir, c'est eux qui croyaient fort, c'est eux qui avaient des idées noires de combat, de besoin de pouvoir et de choses comme ça. Et le désordre, il est arrivé, a priori, si on suit cette théorie-là, quand on a commencé à introduire cette alimentation carnée, cette alimentation cuite. Et du coup, je pense que voilà, l'homme a essayé différentes choses et aujourd'hui, il revient, enfin en tout cas une partie revient un petit peu en arrière en se posant des questions qui sont peut-être les bonnes, de dire tiens, est-ce que je continue à manger carné, cuit ou est-ce que je mange moins de viande mais je vais plus vers le végétal et est-ce que je vais vers plus le cru, l'alimentation vivante ou pas ? Voilà, je ne peux pas répondre à cette question si c'est inscrit ou pas dans nos gènes et en fonction de ce que mangeaient nos ancêtres. Moi, personnellement, je ne sais même pas ce que mangeaient mes ancêtres. Je sais ce que mangent mes parents, mes grands-parents, peut-être mes arrière-grands-parents. Mais voilà, une expérience, c'est que je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément été super bien nourries pendant les périodes de guerre. Et qui pourtant ont vécu peut-être en meilleure santé que des personnes qui sont nées après, qui ont été mieux nourries, mieux nourries en quantité, mais avec des produits beaucoup moins naturels. Voilà, c'est ça que, enfin moi, c'est l'expérience que j'ai pu, l'expérience, c'est pas l'expérience, mais c'est le constat que j'ai pu faire, que des personnes qui ont vécu la guerre, qui ont eu des restrictions alimentaires, mais qui ont aussi pas connu tout ce que nous, on connaît aujourd'hui sur le packaging alimentaire, tous ces produits industriels qui sont sortis quand même beaucoup après de la Deuxième Guerre, mais qui, eux, allaient beaucoup vers les fruits, beaucoup vers les légumes, qui ont vécu, je trouve, j'ai l'impression, assez longtemps et en assez bonne santé. Alors qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ne sont pas encore tout à fait âgées, qui sont malheureusement déjà très malades, mais qui ont mangé beaucoup de produits industriels, des plats tout préparés,
bien sûr.
Des plats très sucrés, très salés, etc. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait voir les choses. Peut-être, les ancêtres, je ne sais pas.
D'accord. Merci. Je te dis bonsoir Laetitia, bonsoir Annelise. Que me conseillez-vous pour nettoyer mes intestins, s'il vous plaît, car je ne me souviens plus du complément alimentaire. Merci beaucoup.
Alors, je ne vais pas pouvoir répondre de manière très claire par rapport à cette question, parce que pour ça, il faudrait qu'on se rende compte, qu'il faudrait que je comprenne quel est votre souci, parce que je risquerais, en vous proposant un produit alimentaire, de vous orienter, d'être complètement à l'inverse de ce dont vous auriez besoin. Cependant, dans un premier temps, c'est des devoirs, si ce n'est pas déjà fait, d'éliminer tout ce que est aliment poison, donc tout ce qui est laitage principalement de vache, tout ce qui va être trop de café, trop de chocolat, trop de viande principalement rouge et pourquoi pas de viande tout court. Peut-être introduire, si ce n'est pas déjà fait, davantage de légumes cuit. Les légumes crus, si vous avez une inflammation au niveau des intestins, ça peut être problématique et vous inflammer davantage. Donc, il faudra peut-être y aller par précaution et peut-être y aller dans un premier temps avec des jus de légumes crus qui, eux, vont être super intéressants pour venir régénérer la muqueuse intestinale, pour venir la tapisser, la régénérer, la réparer. Donc, c'est peut-être ça que je vous conseillerais dans un premier temps, de trouver dans les jus de légumes crus quelque chose pour venir réparer vos intestins. C'est plus ça que je vous proposerai. Là, je prends moins de risques et vous aussi.
D'accord, ok. Ok, donc Jocelyne, on t'invite à venir aux 3 ateliers si tu sens que c'est juste pour toi. Ça pourra te donner des éclaircissements et tu pourras tester des choses parce qu'entre les ateliers, on a laissé du temps pour que vous puissiez aussi tester et pouvoir poser des questions à Laetitia. Alors, je te remercie beaucoup Laetitia. Est-ce que tu as encore des conseils à nous donner important pour que on sache vraiment par rapport à ces 3 ateliers ce qui va se passer.
Alors, par rapport à ces 3 ateliers, il va se passer quoi? Vraiment, dans le premier, je vais vraiment revenir du fonctionnement de notre corps, parce que savoir quoi manger, comment le manger, savoir quoi moins manger, etc., c'est super important, mais moi je trouve que c'est quand même aussi très important de comprendre comment fonctionne son propre corps pour pouvoir lui apporter ce qui est au plus juste pour lui. Donc, dans ce premier atelier, je vais quand même parler de ça et on va parler un peu plus en détail de l'alimentation. Dans le deuxième atelier, on va vraiment s'axer sur l'intérêt nutritionnel en termes de vitalité également, des jus de légumes crus en proposant différentes recettes que vous pourrez vous-même essayer. Et le dernier atelier, on va parler un petit peu plus de cette fameuse alimentation dite crue, cruisine ou alimentation vivante, expliquer pourquoi, comment elle est intéressante ou pas. On parlera évidemment des carences, que l'on risque ou que l'on ne risque pas, bien sûr. Mais déjà là, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous êtes adepte du café, déjà, sachez que le café par la caféine, le thé noir par la théine, le chocolat par la théobromine, tout ce que je viens de vous citer là, ce sont des alcaloïdes, des principes actifs qui, en termes de naturopathie, on appelle poison. Donc, d'accord, si vous êtes adepte du café et que c'est difficile pour vous d'arrêter, je comprends, il n'y a pas de souci. Je vous demanderai juste, si possible pour vous, hein, d'arrêter le café en fin de repas, mais d'arrêter aussi le café, si possible, pendant les repas. Pourquoi ? Parce que le café vient bloquer votre digestion pendant 3 heures au niveau de l'estomac. Ça veut dire que si je fais un petit déj, même bio, tout qui va bien, mais que j'ai un café, pendant 3 heures, je ne vais pas bien digérer. Et mon estomac, il va travailler, ce qui va me fatiguer. Donc, je vais perdre de l'énergie vitale. Et du coup, 3 heures après, mon péristaltisme, comme je vous expliquais tout à l'heure, va se remettre en route. Donc là, j'ai le sentiment que j'ai faim. Et qu'est-ce que je fais ? Généralement, je mange un petit sucre ou un petit comme ça parce que j'ai faim et que ce n'est pas encore l'heure de manger. Donc, si je veux déjà changer quelque chose, le café, et si je ne peux pas m'en passer, ce n'est pas grave. Mais par contre, j'essaye de le boire tout seul en dehors des repas. Donc, soit je me lève, je ne peux pas me passer de mon café, je bois mon café, je ne mange rien d'autre. J'arrive au travail et là, je mange des fruits frais, des fruits secs, ou je me suis amené une tartine, pourquoi pas, de chèvre avec des graines germées dessus, ou une tartine de purée d'oléagineux, voilà. Et par contre, le café de fin de repas du midi, je pense qu'il est peut-être plus facile de l'enlever, voire de le remplacer par une infusion ou un thé vert. Pourquoi pas ? Et on peut remplacer le café du matin par un thé vert, par une infusion, c'est possible. Et sachez donc que le thé noir a les mêmes effets que le café et que de manger du chocolat ou boire du chocolat, ça aura le même effet aussi. Donc, je ne dis pas arrêtons le chocolat, même si ça serait l'idéal. Je ne dis pas arrêtons le café, même si ce serait l'idéal. Mais en tout cas, on peut essayer de diminuer et de les manger en dehors des repas. C'est déjà un premier pas. Ça, d'accord, les jus de légumes crus, vous pouvez introduire aussi en début de repas ou les crudités.
Ok. Alors, j'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te contacter pour des séances et tout et tout. Et j'ai une question par rapport au chocolat. Le chocolat 100% cacao, donc il n'y a plus de sucre dedans. C'est quand même un poison si on en mange 2 fois par jour, par exemple.
Alors, est-ce qu'on parle du chocolat 100%, comme tu dis, quand même en tablette de chocolat, ou est-ce qu'on parle du chocolat cru ?
Non, on parle de tablettes de chocolat, mais il n'y a pas de sucre à l'intérieur. C'est que du cacao. Mais c'est quand même ce chocolat pour le foie, c'est moyen.
Voilà. Ouais. Alors, ça sera mieux qu'un chocolat au lait ou qu'un chocolat noir de base, on est d'accord. Mais ça sera toujours un petit peu poison. Mais une fois encore, si c'est un carré par jour, c'est pas grave que ce soit même le chocolat lambda. Voilà, faut pas. Ce que je viens de vous dire là, il faut pas que ça vous stress, c'est pas du tout l'idée. Ouais. Et l'idée, c'est surtout pas d'aller dans la frustration. Hein. Donc, un carré de chocolat, c'est OK. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Mais si on peut, on le sort du repas pour que ça ne vienne pas bloquer la digestion, la ralentir et la complexifier. Notamment, si vous faites un super repas pas trop assez tôt le soir, mais que vous mangez un chocolat, bah, c'est dommage parce que du coup, ça va être compliqué pour peut-être dormir correctement le soir.
D'accord. Ouais. On a Brigitte qui répond donc à Jocelyne. Tu sais, tout à l'heure, elle demandait par rapport à ses intestins. Elle lui dit, Jocelyne, trouvez un prof de yoga qui vous fasse faire l'exercice de la conche. C'est un très bon processus pour se nettoyer les intestins parfaitement, d'une manière naturelle. Est-ce que tu connais, toi, cet exercice ?
Non, je ne connais pas l'exercice de la conche. Je ne suis pas très experte en yoga, pour tout vous dire, même d'accord, si je pense rectifier ça prochainement. Mais donc, du coup, non, je ne peux pas répondre par rapport à ça. Mais je pense que, de toute façon, évidemment, tous les exercices de yoga et qui vont travailler, j'imagine, avec la respiration et avec les mouvements qu'on fait en bougeant ses intestins, bien sûr, c'est comme se masser les intestins dans le sens des aiguilles d'une montre, évidemment, Tout ça, c'est très juste, bien sûr. Tout à fait.
Mmh. Ok, merci. Sylvie qui te dit, peut-on faire le fasting du soir après le repas au lendemain midi? Y a-t-il des contre-indications?
Mais je ne sais pas ce que c'est que le fasting.
Eh bien, moi non plus. Donc, on n'est pas... Okay. Franchement, le fasting, je ne sais pas ce que c'est. Sylvie, si tu veux nous préciser. Très volontiers, précise-nous, parce que là, on ne sait pas. Mm-hmm. Et j'ai aussi une question d'Ayat. On va voir si tu la comprends. Mm-hmm. Alors, d'une ouverture de troisième œil, je n'arrive pas de la viande. Est-ce que la viande peut empêcher la connexion spirituelle?
Oui, bien sûr, et surtout la viande de porc. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais la viande de porc, effectivement, si vous voulez vous ouvrir sur un point de vue spirituel, arrêtez le porc, parce que je pense que simplement, elle doit être très riche en toxines. Coup, oui, la viande d'une manière générale, mais la viande de porc de manière bien particulière, oui, ça, sur un plan énergétique, c'est bien d'arrêter. Et je pense que les viandes d'une manière générale aussi. Ouais.
Ok. Alors, on a Fadoua. Merci, Fadoua. Il y a Fadoua qui nous dit que le fasting, c'est le jeûne. Donc, merci beaucoup. Donc, on va reprendre la question de Sylvie qui dit, peut-on faire le jeûne du soir après le repas au lendemain midi?
Bien sûr. Alors, non. Donc, ça veut dire que tu dînes le soir et tu remanges que le lendemain midi. Il n'y a aucune contre-indication dès lors que la personne se sent bien. Voilà. Mais il n'y a aucune contre-indication. Voilà. Évidemment, l'idée, ce n'est pas non plus de faire un repas du soir gargantuesque. Hein. On fait un repas du soir pour passer une bonne nuit, pour bien digérer, bien faire les différentes étapes que je vous ai indiquées tout à l'heure dans le sommeil. On se réveille bien. L'idée, c'est que si quand on se lève le matin, on n'a pas faim, mais c'est que le corps, il n'a peut-être pas terminé son travail de la nuit. Et du coup, il n'a surtout pas besoin qu'on lui rajoute quelque chose. Imaginez, le soir, vous garez votre voiture et puis vous avez fait le plein. Est-ce que le matin, quand vous vous levez, avant toute chose, vous remettez de l'essence dans la voiture? Ben non, vous ne l'avez pas utilisé. Sinon, ça déborderait. Et maintenant, c'est pareil. Si le soir, on a fait un repas qui va bien, on se lève le matin, on n'a pas faim, si on remange, en fin de compte, on va venir surcharger le corps. Et c'est là qu'il va venir se fatiguer parce qu'il dit, ah là, attends, tu me redonnes des trucs, mais moi, je ne t'ai rien demandé là. Et là, il va falloir que je digère. Je suis fatiguée déjà. Et là, ah non, mais attends, tu sais quoi, je ne vais même pas m'embêter, je vais stocker. Pof, 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 pof. Et du coup, c'est dommage parce que ça va surcharger le fonctionnement de l'organisme et peut-être bien l'organisme. Donc, si le matin vous vous levez et que vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Vous emmenez une pomme, des fruits secs, une banane et vous faites ça à votre pause fruits dans la matinée et puis vous mangez le midi. Mais vous pouvez aussi très bien ne pas manger le matin, ne pas manger dans la matinée et ne remanger que le midi. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent.
Oui.
Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis, si au contraire, vous avez faim le matin, bah vous mangez. C'est OK. Voilà. Mais c'est l'idée de ne pas venir remettre de l'essence dans votre voiture si on n'a pas besoin, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est super. Merci beaucoup, Laetitia, pour tout ça. C'est vraiment super beau, super riche. On vous invite à nous rejoindre pour les 3 ateliers. Donc, c'est des ateliers enregistrés. Donc, vous les aurez à vie. Vous pourrez les revoir. Vous pouvez venir en ligne avec nous pour poser vos questions ou vous pouvez les acheter et les voir par la suite. Et Laetitia, je te propose de nous faire une belle conclusion pour cette Vibra-conférence sur tout ça.
Bah déjà, une fois encore, merci beaucoup au grand changement. Merci à vous toutes, vous tous qui étiez présents ce soir, parce que sans vous, ça n'existerait pas. Moi, j'adore parler de tout ça, j'adore partager tout cela. Donc, vous l'aurez bien compris, pour gagner en vitalité, pour être bien dans ces 4 corps d'une manière holistique et pour pouvoir s'élever sur un plan spirituel et augmenter sa vibration, bah c'est simple, il faut être à l'écoute de soi, il faut apporter de l'alimentation vivante à son organisme, il faut bien respirer, bien se reposer et bien éliminer. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. À très bientôt pour les ateliers.
J'ai hâte. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.